Merci Alberto Ruiz Sanchez. Alors on a sûrement aisément 45 minutes pour revenir sur tout ça, y compris sur cette mouche ou ces mouches délicieusement subversives et ces chèvres dans les arbres et autres choses, objets d'étonnement. Et, il a été question d'oubli, il a été question de commémoration aussi. Je pense que pour des Québécois, ça trouve des échos assez directs, hein, puisqu'on a vécu l'an dernier le 400e anniversaire de la ville de Québec avec de nombreuses commémorations. Et on a parlé plus récemment aussi du 250e anniversaire de la bataille des plaines d'Abraham, 1759. On sait à quoi peuvent servir les commémorations, quel débat et quelle folie ça peut susciter. Alors, donc, il y a plusieurs pistes. Il y en a sans doute d'autres aussi. Moi, j'aurais peut-être commencé, je vais simplement pour briser la glace, une question à Bertrand Gervais. Est-ce qu'il n'y a pas le risque dans cette vision de gommer complètement quand même ce qui est aussi fécond dans le temps séquentiel ou chronologique? C'est-à-dire, si, est-ce que l'imaginaire est toujours à ce point achronique ou sans doute en grande partie, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une fécondité de la chronologie, de la succession des événements, le récit aussi est souvent porté par ça.
Oui, mais alors là...
Mais disons que si vous intervenez, on va faire circuler ce... Mais ce bon, on va essayer... Oui, le problème, c'est le fil.
Pour répondre à ta question, il est clair que j'arrive avec un portrait presque radicalisé du rapport entre mémoire et oubli. Mais il faut voir que l'opposition est tellement bien ancrée dans notre culture qu'il y a mémoire et ensuite il y a oubli, qu'il est très tentant de vouloir renverser l'opposition et le faire comme on le faisait dans les années 70, donc de la déconstruction, donc déconstruire l'opposition entre mémoire et oubli et poser d'abord et avant tout un oubli non pas négatif, mais un oubli positif, un oubli comme modalité de l'agir. Et voir de quelle façon, à partir du moment où on renverse l'opposition, tout à coup, un ensemble d'autres définitions réapparaissent, une autre conception, que ce soit de l'écriture ou du sujet, qui tout à coup réapparaît. Dans ce sens-là, ce que j'essaie de faire, c'est de penser l'oubli comme modalité de l'agir et de comprendre certaines de nos activités en fonction de cette définition de l'oubli-là, qui n'est pas une subordination de l'oubli à la mémoire. Une fois ceci dit très clairement, le travail de l'imagination et de l'écriture, bon, pour moi, j'essaie de penser ici comme utilisant le passé, non pas simplement comme matériau, mais le passé comme potentialité. J'étais très fasciné, pour avoir beaucoup travaillé sur l'amusement depuis une vingtaine d'années, d'être allé en Australie, de me rendre compte que les aborigènes australiens avaient l'équivalent d'un concept d'amusement qu'ils définissaient comme le temps du rêve. Et pour eux, le passé, le présent et le futur ne se déploient pas comme nous le connaissons en fonction de trois termes, mais se déploient en fonction d'une dualité entre le potentiel et l'actualisé. Le présent, c'est l'actualisé de ce qui est potentiel, et le potentiel étant tout ce qui, depuis le temps du rêve, et qui est le temps, en fait, leur temps mythologique à eux, apparaît comme étant cette potentialité de signification et de modalité d'existence. Et donc là, je me suis dit, c'est intéressant de penser le musement et ce rapport à l'oubli comme dans cette dialectique-là du rapport entre le potentiel et l'actualisé. Une fois cette relation-là à la pensée ou même au pensé, prenant le verbe et transformons-le en substantif, une fois ce rapport-là au pensé établi, très clairement, nous avons des discours à tenir, nous avons des récits à déployer, des poèmes à écrire, et qu'à partir de ce moment-là, par la force des choses, le langage nous amène à retemporaliser, à redéployer. Mais la question pour moi était de me dire, d'où viennent nos idées? D'où vient ce que nous pensons?
de quelle façon pouvons-nous rendre compte de ce rapport entre dessaisissement et ressaisissement qui est au cœur même de la création littéraire, non pas au cœur même du texte lui-même en tant qu'il est un ensemble de signes structurés, mais bel et bien, comment arrivons-nous à penser, à écrire, à nous imaginer le présent, toutes sortes de choses. Donc, il n'y a pas une banalisation de la mémoire, il n'y a pas un refus non plus de la mémoire, au contraire, il y a simplement essayer de penser le rapport entre mémoire et oubli autrement dans nos modalités même de l'agir. Une fois que ces modalités-là sont établies, par la force des choses, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des sujets qui avons à communiquer entre nous et à utiliser des langages, le même langage ou des langages voisins, disons-le comme ça, et nous entendre sur un ensemble de faits et d'événements. Mais penser la création, penser le texte littéraire, c'est aussi essayer de comprendre par quel mécanisme nous en arrivons à quelque chose de nouveau ou de possiblement nouveau. Alors, c'est peut-être un peu dans ce sens-là j'essaie de développer.
Oui, alors il y a Hélène Dorion et Claude.
Hélène. Merci pour ces trois interventions. Ma question est un peu dans le même sens que celle que posait Pierre Neveu à Bertrand, mais je la poserai à Diane Monique, qui parlait du travail remémoratif de l'imaginaire plutôt que du souvenir. Donc, évidemment, tout ce qu'on investit dans la mémoire, dans le souvenir, à partir de l'imaginaire, et donc tout un travail de transformation de la mémoire et même du souvenir, qui, bien sûr, fait... bouger, fait vaciller la notion de vérité. Tu as aussi parlé d'une sorte d'un monde de l'expérience, en fait, quand tu parlais de toutes ces expériences qui surviennent, et tu disais, devenant différent, oublie-t-on ce qu'on a été. Et tu parlais des seuils de rupture qui fragmentent la mémoire. Voudrait dire qu'il y aurait une sorte de bris temporel, donc vraiment de discontinuité dans la mémoire. Et donc, à ce moment-là, je me demande où se situerait, est-ce qu'il n'y a pas plutôt une sorte de fécondité aussi de la continuité du temps? Est-ce que ce qu'on devient n'est pas déjà contenu, bien sûr, dans ce qu'on a été? Et comment... réconcilier, en fait, cette notion de rupture avec une notion de transformation, comme tu le fais, par exemple, avec l'imaginaire qui transforme la mémoire. Donc...
Je pense qu'il y a les deux. Je pense que nous sommes faits des deux, d'une continuité peut-être d'une continuité ou d'une série de ruptures, de seuils qui fragmente continuellement l'expérience, la mémoire en avant et après. Il y a des expériences qui s'étalent tout au long de notre vie et qui nous transforment. C'est un peu un processus d'amplification d'un événement à l'autre, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont... qui nous projettent dans un monde dont on ne peut pas revenir, en principe, parce qu'on ne peut plus imaginer autre chose. On perd le souvenir de ce qui a été, on ne peut plus le porter en soi. Et je pense particulièrement aux expériences qui touchent le corps.
Ou est-ce que ce n'est pas alors aussi une sorte de transformation, mais... disons, est-ce que la rupture ne serait pas à ce moment-là l'expérience radicale de la transformation?
Bien, prenons une expérience banale comme celle de vomir. bon.
C'est pas banal. La nocette.
Disons plutôt trivial, mais tout le monde n'a pas accouché, tout le monde n'a pas eu des règles, tout le monde n'a pas connu la ménopause, mais vous dites tout le monde a connu ça, mais à partir de quel moment dans notre vie on connaît ça? Je suis en ce moment en contact avec une enfant qui n'a jamais vomi. Et moi, je me rappelle très bien de l'expérience traumatisante de de rendre l'âme et du fait que pendant au moins 20 ans de ma vie, j'ai refusé de vomir. Donc, lorsque je me sentais mal, je retenais tout à l'intérieur et un jour, je n'ai plus été en mesure de retenir. C'est sorti, j'ai découvert que c'était quand même libérateur. Il fallait peut-être mieux en finir le plus rapidement possible. Mais je pense que c'est une expérience. Moi, en tout cas, le jour où j'ai vomi pour la première fois, j'étais dans un autre monde. Je me disais, je ne peux pas expliquer à quelqu'un ce que c'est vomir s'il ne l'a pas expérimenté. Il n'a pas cette mémoire-là. Il n'a pas l'expérience, mais il n'a pas la mémoire inscrite dans son corps. Alors, je pense qu'il y a toute une série d'expériences comme ça qui sont irréconciliables, qui font que si on côtoie d'autres personnes, on parle assez rarement de ces expériences de vomir, mais fumer, conduire, accoucher... On questionne régulièrement, on se questionne régulièrement les uns les autres sur ces faits-là. As-tu déjà fumé? As-tu des enfants? As-tu déjà accouché? Comment ça s'est passé? Et on a beau essayer d'imaginer ce que c'est, je crois que si on ne l'a pas vécu, c'est un autre monde. Je pense pas que ça... Je pense pas, moi... au moment où je suis arrivée dans ma vie, que j'aurais pu... bien sûr, je suis faite de mon adolescence et de ma vie d'adulte, et il y a des processus organiques, physiologiques, qui sont juste la suite les uns des autres. Mais en ce moment, moi, je fais il y a quelques années, j'ai fait l'expérience de la ménopause. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je considère qu'il y a une brisure dans ma vie... même si je sais d'où je viens, mais que personne qui n'est pas rendu là ne peut imaginer.
Claude Baird.
Merci. Alors, merci aussi de tout ce que vous avez dit qui est très, très riche. Alors, je ne vais pas faire la chèvre sur les arbres, mais il y a quand même des choses, non, encore que je les ai vues souvent dans mon midi natal, mais quand même, comme disait un poète, comment il s'appelle déjà, un poète occitan, le poète est une vaca, c'est une vache, parce qu'il rumine et que cela revient. Donc, ça me fait faire deux réflexions. La première, qui est peut-être, c'est sur l'histoire des ruptures. Elles sont, je comprends très bien cette succession du temps, mais elles sont successives. Donc c'est Claude Baird, puisqu'il fallait dire son nom. Elles sont, et ces ruptures sont subjectives. Et si on prend un exemple, c'est-à-dire que pour les uns, tel passage est marquant, et tel autre insignifiant. Si je prends par exemple un passage essentiel, que je vais prendre volontairement par rapport à ce qui a été choisi, la jouissance, par exemple.
Ben, c'est voilà. Un bon exemple.
Ah ben, oui, c'est pour ça que je prends, en prenant le mi-temps des choses, le milieu des choses, là où quelque chose a lieu d'essentiel. Eh bien, j'allais dire que finalement, je ne m'en souviens pas. Au sens, eh bien, oui, je ne peux pas me souvenir. Je peux me souvenir du moment, du jour, d'un ensemble de sensations et d'événements ou de l'événementiel. Mais par contre, la métamorphose, et j'ai bien parlé de la jouissance, je n'ai pas parlé de l'expérience sexuelle, ce qui est tout autre chose. J'ai bien parlé de ce qui nous fait accéder à ce rapport-là, à son propre corps et au corps de l'autre, mais donné maintenant, ou est donné après que cela ait eu lieu, comme un continu. C'est-à-dire comme une part, et ça vous l'avez dit, continue de mon identité.
Oui.
Et oui, indissociable. Donc quand vous avez dit on oublie en quelque sorte ce qui était avant, ou du moins ce que l'on devient, nous amène, et c'est là que je voulais en venir, à quand même, sans fin, relire le passé à travers le présent. C'est-à-dire que notre mémoire de ce qui fut est sans cesse modifiée, métamorphosée, hein, par ce que nous devenons, c'est-à-dire aussi bien par notre présent que par notre devenir. D'où le ressaisissement, hein, qui à un moment donné, dont vous parliez, et qui m'a beaucoup, qui m'a frappé. Mais du coup, ça me faisait faire une deuxième remarque, qui était que finalement, je n'arrive pas à penser mémoire et oubli autrement que simultanément. c'est-à-dire que la grande trieuse, mais c'est comme si c'était pile et face d'une même pièce. Mm-hmm. À la fois oublie, mémorise, choisissant malgré moi mes souvenirs. Comme d'ailleurs, on ne choisit pas ce dont on se souvient. Comme d'ailleurs, ils surviennent, hein, par inadvertance, comme nous sommes beaucoup à l'avoir souligné. Donc, il y a dans ce phénomène l'impossibilité de dissocier la mémoire de l'oubli. Mais il y a une chose qui me frappe, c'est que cet après-midi où on parlait d'abord de prosateurs, ils ont insisté sur l'oubli. Et que ce matin, on a insisté sur le bien, même si... Bon, bien sûr, le poète peut se faire prosateur et le prosateur poète, et même si les frontières des genres, heureusement, hein, sont traversées sans cesse, il est quand même intéressant de se rappeler, et même par rapport à votre choix, que la prose latine, était prosa, c'était la déesse qui présidait aux enfantements, et qu'en latin, prosa, ça veut dire aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut oublier. Alors que le versus... Hein, versus c'était, c'est le retour du chant au bout, hein, le retour du sillon au bout du chant. Comme d'ailleurs en arabe, je le prononce abominablement, ne m'en veuillez pas, mais le terme qui signifie le vers, c'est bahar, c'est-à-dire la mer, le retour du flot. Retour du flot, retour de la terre, la poésie quelque part fait retour sur elle-même. Alors ça, il peut y avoir du coup du poème dans la prose dans le poème, etc. Je ne me remets pas à distinguer des genres. Mais ces deux manières de vivre le temps. Et puisqu'on était dans l'anecdote, je voudrais juste en dire une et puis très très vite. Lorsque j'étais enfant, je me souviens quand on nous racontait, on nous faisait lire, vous savez, ces livres d'enfance ou ces contes. Mais je m'ennuyais parce que je connaissais déjà la fin, pas les meilleurs contes de Perrault, etc. Mais les petits livres faits pour les enfants. Et j'en pouvais plus savoir déjà au début ce qu'on allait dire à la fin. Et c'était, je trouve, il n'y avait pas d'inattendu et de surprise. Et surtout, j'avais le sentiment, j'étais petite, j'avais 10 ou 11 ans, j'avais le sentiment de perdre la simultanéité. C'est-à-dire le fait que dans ma tête, à cet instant où je vous parle, il y a dans ma tête, à la fois du présent, là où je suis, mais aussi du passé, ce que vous avez dit, ou vos visages, ou vos gestes éveillent, il y a ce que je pense, mais aussi ce que je vois et ce que je sens, c'est-à-dire une espèce d'épaisseur, inextricable de ce qui est notre flux de conscience, et que je ne citerai pas comme une continuité, mais plutôt, je ne vais pas dire qu'en cas enseigne en quatre dimensions, hein, comme à la manière de la relativité, mais quasi, comme un objet insaisissable dans ce que vous avez appelé la linéarité du langage. Et si quelque part j'ai fait du poème, bon, parce que j'avais vu Les fraises sauvages de Bergman, alors comme quoi on m'avait emmené voir ça à 12 ans, un professeur qui avait très bien fait. Et enfin, je ne comprenais pas tout. Je n'épuisais pas. Ça laissait de l'espace. Et ça laissait aussi, ça me donnait la sensation, quand j'ai lu les premiers poèmes, qui étaient autre chose que ceux qu'on m'avait donné à lire, j'ai eu soudain le sentiment que pour la première fois, l'épaisseur de ce qui se passait, la multiplicité de chacune de nos secondes m'était redonnée en entier. Et parfois, bien sûr, la prose le donne, bien sûr que la prose le donne, évidemment. Bon, de même que le poème peut se déployer narratif, bien évidemment. Mais il me semblait je sentais là deux polarités, hein, qu'on pourrait dire le poétique de la langue et le prosateur de la langue, qui n'hésite pas à se mêler, s'imbriquer, se mélanger, bien évidemment, mais qui serait d'un côté cette nécessité d'aller en avant du langage, et de l'autre ce retour permanent du langage sur lui-même qui fait notre épaisseur intérieure. Mm-hmm. Voilà un peu ce que je ressentais à vous entendre.
Ça va?
Non, ça va. C'est moins une question qu'un rebond.
Bon. Bon, alors, Paul Chamberlain. Le micro, s'il vous plaît.
Oui, je vais essayer de ne pas trop reprendre ce que Claudel vient de dire parce que ça se recoupe. C'est très curieux parce qu'il n'y a aucune concertation, en tout cas pas à ma connaissance, entre les trois intervenants. Mais il y a un fil, que Claude a retracé, je ne vais pas m'attarder. Mais il y a un étrange fil conducteur qui est d'ailleurs peut-être pas en rupture, mais comme dans une sorte une autre orientation par rapport à ce que je pense à ce que Pochanel à l'enfant nous a dit ce matin et moi-même hier. Et là, nous étions, c'est comme, ben, je simplifie, dans la mémoire, et là, oups, on est dans l'oubli, mais enfin, on est dans la même chose. Mais il y a des choses qui me frappent. Rapidement, ce que Bertrand disait, moi j'étais très sensible à ça, cette notion, je ne la connaissais pas d'ailleurs, cette notion de musement, qui fait penser aussi à un vieux mot français, il me semble, bien que ce soit un néologisme, je ne sais pas. C'est qu'à ce moment-là, on ne peut pas se souvenir ou on ne peut pas être dans une démarche qui soit vive, si je puis dire, créatrice finalement de nous-mêmes, sinon par, par un consentement à l'oubli. Dans ce que Diane disait, ce qui était frappant, c'est que là aussi, c'est illusoire à un moment donné de croire être établi dans une suite tranquillisante, rassurante des choses et ce qui fait qu'on se construit peut-être à ce moment-là des espèces de mémoires routinières ou bon qui sont stérilisantes et ça s'approche très bien surtout dans ce que tu nous as dit tantôt trop proche oui ça se rapproche très bien de quelque chose quand même qui est, on en a pas parlé mais ben au fond ça affleure aussi. Bon, seuil, rupture, fragmentation, finalement, on va vers le traumatisme, les chocs traumatiques, grands ou petits. Moi, ça m'a toujours fasciné, et la façon dont il en parle, d'ailleurs, là, je vais du côté de la psychanalyse, les traces mnésiques, comme Freud en parle, c'est précisément ce qui ne peut pas accéder à la mémoire. C'est très important de comprendre le mécanisme de l'inconscient. Sinon, à un moment donné, par le symptôme, ou encore par des états de création, mais on peut pas non plus les identifier comme un médecin fait un diagnostic. Donc, on est fragmenté, on est de toute façon, s'il fallait quand Freud parle du système perception conscient, inconscient et perception conscience, la première topic, s'il fallait se rappeler tout ce qui nous a bombardé, ça, c'est ahurissant, c'est inimaginable. Je me souviens du reste, ça on l'avait dit, sur le LSD ou d'autres drogues de ce genre-là, une des choses qui est très difficile à un moment donné à supporter, ouais, c'est que c'est comme si le seuil qui fait la sélection des perceptions et sensations au fur et à mesure qu'on les a, ce seuil-là était abaissé. Et donc on est dans un état de bombardement absolument épouvantable. Alors donc, en fait, puis là, si on passe, moi, j'ai trouvé ça tout à fait remarquable, surtout avec la fin. Je crois que l'histoire du chaman est comme la clé aussi, et tu l'as mis à la fin, je pense que c'est pas forcément stratégique, là, tout ça, mais ça peut être intuitif, peu importe. C'est-à-dire, au fond, il n'y a pas de possibilité de vivre, de renaître, sans pouvoir laisser surgir au fond ce qui ce qu'on juge insignifiant, enfin les commémorations entre autres bien sûr et tant d'autres choses, c'est que c'est grave, c'est solennel, c'est majeur, on doit, je vais commencer un peu ironiquement hier en disant de quoi devrions-nous nous souvenir, et bon il y a toute une histoire autour de ça, mais à la fois le vanitas, l'effacement, le vain, le provisoire, l'impermanent, comme on dit dans le bouddhisme, ce qui laisse place à l'inattendu et que tu as appelé très joliment de poétique de l'étonnement, ce que je vois dans les comme fil conducteur qui s'est disposé au fond par hasard à travers les trois communications, c'est qu'au fond, même si dans son ordre des vérités établies, comme je disais, assurées, on ne peut pas s'en passer, qu'on se considère tout sous cet angle-là, c'est véritablement mortifère. Et donc, il s'agit de considérer non pas les vérités établies scientifiques et tout, et de l'autre côté, ce qui serait non pas un amusement, mais un pur amusement, mais une vérité essentielle. J'essaie de la formuler. Au lieu d'être dans un établissement, ce que Descartes voulait, c'est une espèce d'enchaînement strict des représentations claires et distinctes, presque de l'ordre de l'obsession, en fait, de la névrose obsessionnelle, à la limite. Et alors que l'invention est une vérité absolument indispensable. Là, on revient au mentir vrai, la fiction. Et je me suis dit, peut-être qu'au fond, parce que si on parle de mémoire, de souvenir, c'est vouloir être pas perdre de vue, être fidèle à nos morts, à nos bon, etc. c'est peut-être aussi, c'est pas sans inconvénient, s'assurer toujours d'une autochtonie dont, qu'on ne trahirait pas, alors qu'au contraire, c'est par l'étrangement, c'est par le fait de ne plus savoir qui l'on est, qu'on retrouverait une sorte de fidélité essentielle, c'est ce que je dirais. Et on ne peut l'obtenir, cette fidélité-là, donc par la rupture, l'étrangement, la fiction, qu'en l'étant à ce qui nous échappe irrémédiablement, qui rejoint le dessaisissement et qui nous tient toujours à distance, un peu comme dans le désert, au fond. Et ce qu'on appelle soi, au fond, c'est très lointain. Et ce qu'on appelle autre, c'est au fond très très proche.
Il y a Naïm Kata et Daniele Pieroni.
Ce que j'ai pu déceler dans les trois communications très riches de cet après-midi, c'était une réflexion sur le temps. Ce n'était pas vraiment une réflexion sur la mémoire, mais c'était le temps. Alors, chacun de nous fait l'expérience de temps à sa manière. Moi, j'ai fait l'expérience de temps en rapport avec l'espace. On vit toujours dans un espace et le rapport de temps se fait par rapport à l'espace. Et quand on change d'espace, comme ça arrive aux immigrants, et moi, comme immigrant, j'ai changé d'espace, et il y avait un autre rapport avec le temps dans un autre espace. Et j'ai écrit un livre dont le titre est « La mémoire et la promesse ». Et pour moi, la mémoire aboutit et se confond toujours à une promesse. Et la promesse n'est pas uniquement le temps présent ou l'avenir, mais c'est le passé lui-même qui devient une promesse pour celui qui change d'espace. Et, alors, le temps revient, mais il ne revient pas en cercle, il revient en continuité. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. L'autre remarque que je voudrais faire, c'est au sujet de la commémoration. On vient de, dans la, enfin, les Juifs viennent de célébrer la Pâque, et je l'ai célébré. Et la Pâque, c'est quoi ? Le sens même de la Pâque juive, c'est de revivre la sortie d'Égypte. Dire nous étions, donc commémorant une chose que nous vivons au présent, le jour même, nous étions esclaves et nous sommes libres. C'est une expérience de la liberté, de la libération, et toute la Bible reprend, Dieu parle et dit, je vous ai sorti d'Égypte, vous étiez esclaves et je vous ai libéré. Et la commémoration, donc, dans un temps qui est un temps pas revécu, mais un temps vécu. C'est-à-dire la commémoration n'est pas simplement un rappel. C'est une manière de revivre et de vivre un temps qui, pour le sauver de l'oubli. L'oubli peut faire oublier une libération, mais la libération est continuelle. Et si on commémore cette libération-là, elle est vécue.
D'un sens, on le mérite.
Daniele Pieroni.
Je voudrais faire retour à une expression que Bianmonique Daviaud a dit. On écrit aussi pour oublier. Et moi, je pense que pourrait la changer, la transformer en on oublie aussi pour écrire, dans le sens que si nous parlons du rapport entre la mémoire et la conscience, qui est très liée à la mémoire, et l'œuvre, la création artistique, donc je pense qu'il faut oublier pour aller. Pour avancer. Et c'est quelque chose. Parce que ces souvenirs, peut-être aussi une prison qui ne fait n'est pas à surgir, n'est pas fluctué. Et donc, je pense, par exemple, qui produit aussi, peut-être, pas seulement du point de vue existentiel, mais du point de vue de la création littéraire, une cohésion à répéter. Et je me souviens, par exemple, que en Italie, on a eu des mouvements de création artistique, des mouvements de vanguard, surtout dans des villes comme Turin et Gênes. Je pense par exemple au mouvement L'Arte Povera dans les années 60, et qui ont fait l'histoire de l'art contemporain. Et donc, pas de mouvements égal dans des villes comme Rome, comme Florence ou comme Venise, où la mémoire du passé est tellement forte, et tellement, il y a une beauté tellement parfaite qui est toujours là à presser. Alors, on est arrivé que des artistes intéressants sont nés, se sont mis en résultat plutôt dans des villes industrielles comme Turin, comme Gênes, et non pas dans des villes comme Reine de la Renaissance, comme Florence, par exemple. Alors, je crois qu'il faut être un peu, il faut avoir un rapport un peu doublé avec le passé, donc avec la conscience du passé. Il faut être un peu comme, l'artiste doit être un peu comme Janus, des faces. Donc, avoir un regard sur le passé, mais aussi regarde vers le futur. Donc ça, c'est vraiment une condition de production. Merci.
Évidemment, c'est le thème de la rencontre, mais je trouvais, quand j'y pensais à cette rencontre, que on parle beaucoup plus souvent de la mémoire comme si l'oubli n'en faisait pas partie, justement, comme si l'oubli était le contraire de la mémoire. Et je pense que c'est vraiment intrinsèque et que s'il y a un devoir de mémoire à bien des niveaux, collectivement, des histoires de famille, etc., il doit certainement y avoir aussi un devoir d'oubli pour avancer dans la création, dans la vie et collectivement aussi, je pense.
Là je vais expliquer, c'est que il y avait Claude Bert qui avait demandé la parole, mais Louis-Philippe Hébert qui n'a pas parlé encore voulait intervenir, mais d'accord Rachel, okay, si c'est pas trop long, porter. Ensuite Louis-Philippe Hébert, ensuite Claude et Louise.
J'ai seulement okay, noté alors, pendant que Diane Monique parlait qu'elle parle de décharger la mémoire comme si ce souvenir permettait d'oublier. Vous parlez aussi de désencombrer la mémoire. Alors, c'est comme s'il fallait passer par le processus de la mémoire pour...
Je pense que l'oubli fait partie de la mémoire, oui. Et que on parlait de la grande trieuse là, tout à l'heure, Claude. Oui. Ça se fait... probablement simultanément, c'est-à-dire ça passe par le filtre, il y a des choses qu'on ne retient pas, Dieu soit loué, et on a besoin d'oublier pour pouvoir retenir autre chose. C'est pas que la mémoire serait surchargée, c'est peut-être pour se garder un espace de liberté. Il y a un processus qui se fait naturellement, mais je veux dire aussi que puisqu'on se force souvent pour se rappeler, commémorer, se souvenir, garder des choses en mémoire, il est bon de se rappeler que c'est très sain et salutaire aussi de, parfois travailler à oublier ou travailler sur l'oubli, sur l'autre facette des choses.
Merci. Alberto Ruiz Sanchez. En vous écoutant, je me disais que vous racontez très bien des histoires. Et je me disais que c'est probablement... Ça me rappelle que pour se souvenir, il faut un récit, une histoire quelconque. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et tout à coup, quand vous avez terminé, j'ai pensé à un ami qui est psychiatre et qui est paralysé, il a un problème neurologique. Et après ça, il a eu des problèmes d'épilepsie. Et il a tendance à oublier les détails de la vie quotidienne. Et je lui ai dit, comment tu fais pour fonctionner? Et il m'a répondu, je me souviens toujours des histoires. Alors, je trouve ça très bien. Comme si les détails d'une histoire, les liens de cause à effet, nous permettaient de nous souvenir des choses dont on doit se souvenir.
Si, bon, il y a toute une section que je n'ai pas développée, mais c'est sur la langue comme objet de mémoire. Et une des choses, on ne peut pas faire la réflexion, c'est que je pensais plutôt à la mémoire comme montage, comme les montages cinématographiques. C'est-à-dire, la mémoire, ce n'est pas quelque chose d'isolé, pas seulement de l'oubli, mais de toutes les choses de la vie quotidienne. Quand je parlais de la mémoire comme clé de perception de la vie, je pensais aussi que la mémoire, c'est la clé du récit. C'est la mémoire qui nous fait faire les montages. Et on les voit à la recherche du temps perdu, quand à la fin, Proust fait l'éloge de la perte du temps, pas du travail à récupérer le temps, mais de la perte du temps. Il dit que l'important, c'est d'avoir perdu le temps, c'est-à-dire d'avoir des choses qu'après on va raconter. Et ce qui nous donne la possibilité d'articuler tout, c'est la mémoire. La mémoire involontaire, dans ce cas. C'est plus complexe que ça, mais la mémoire comme articulatrice. Hein?
Mais, en même temps, je pense que, Rachel, c'est intéressant ce que tu soulèves, parce que je ne pense pas qu'il y ait de vie sans récit de vie. On n'est que le récit qu'on se fait continuellement de sa propre vie, de son passé. Ouais. Et de la même manière que c'est la mémoire qui fait le montage, qui fait le récit, c'est le récit qui fait qu'on a la mémoire de notre vie.
Alors, Louis-Philippe Hébert, qui a demandé la parole depuis un certain temps.
D'ailleurs, c'est de temps un peu que je voudrais parler, mais avant d'en parler, j'aimerais ça parler du côté de l'aspect actif, de non pas de la mémoire, parce qu'on parle beaucoup du travail qu'il faut faire pour se souvenir, mais de l'aspect actif de l'oubli. Il m'a été donné de rencontrer et de côtoyer des gens qui, justement, avaient des problèmes de mémoire et qui perdaient d'une manière progressive toute mémoire immédiate. Chez ces gens-là, étrangement, revenaient avec une précision incroyable des éléments qui s'étaient passés il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans même, mais avec une... c'est presque... Ça devient presque obsédant parce que, vous savez, vous avez quelqu'un qui va vous dire « je portais tel genre de chaussures de telle couleur avec un bouquet de fleurs broché à tel endroit » et là, c'est presque un retour vers des albums photos, retrouver les photos en question et s'apercevoir que tout ça est... extrêmement vrai, c'est épouvantablement vrai, au point où on peut se demander si jamais on oublie quoi que ce soit. Il semblerait qu'on ait tout enregistré, que tout soit là, et on pourrait peut-être faire même une comparaison avec tout le monde d'Internet dans lequel on vit présentement et des mémoires virtuelles qui existent un peu partout. Vous savez, on vous prend, on prend votre numéro, on prend votre carte de crédit, on prend votre nom, et on peut littéralement savoir tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous avez consommé depuis l'arrivée de l'informatique, depuis l'arrivée des cartes de crédit. Là aussi, il n'y a rien qui s'efface. Tout est gardé, tout est entreposé, et à la rigueur, il n'y a vraiment aucun un oubli possible, sauf dans un effort d'oublier, c'est-à-dire une volonté de ne pas y avoir recours. Mais ma question allait plutôt, excusez-moi, ça c'était un commentaire en passant, ma question allait plutôt à Bertrand Gervais. Son idée de musement me plaît énormément. J'y vois une connexion entre, enfin, je vois l'arrivée du temps tout à coup, c'est ce qu'on a vu cet après-midi. Enfin, on parle de temps, parce que de mémoire sans temps, il n'y a pas de mémoire sans temps. On parle de temps, on parle de passé, de présent et possiblement même d'avenir. Et j'imaginais que son état, l'état dont il parlait lors de ses musements, était une sorte d'état d'unité parfaite où le présent, le passé et l'avenir ne font plus qu'un. Et ça, je trouvais que c'était extrêmement séduisant. D'autre part, je voyais presque en contrepoint un élément qui m'inquiétait un peu, et là j'aimerais bien qu'il me rassure s'il le peut, c'est que je voyais un peu un côté un peu romantique dans la chose, imaginant une sorte de rêverie d'un promeneur solitaire qui attendrait le moment où le musement se produirait véritablement. Et là, évidemment, c'est trop facile de dire où la muse viendrait le visiter.
Très clairement, l'idée même de muse est associée au terme de musement qui a été développé par Peirce à la fin du 19e siècle. En fait, ce qui est intéressant du concept, c'est un peu comment penser le concept d'inconscient indépendamment de la psychanalyse, indépendamment d'une théorie du sujet et du sujet malade, disons-le comme ça, parce que quand même, on peut voir que la psychanalyse a comme fonction, d'abord et avant tout, de proposer une théorie du sujet qui rencontre, hein, qui permet de, en guillemets, régler, je sais très bien qu'il y a des guillemets à mettre par régler, mais de simplifier, faciliter, régler le problème d'un certain nombre de sujets. Donc l'idée du musement est une autre forme de pensée, une autre façon de penser le travail de l'inconscient, une autre façon de penser le fait que nous sommes toujours en train de penser, que nous pensons avant de parler. Alors si on dit nous pensons avant de parler, c'est donc dire que quelque part, ça pense. Et où est-ce que ça pense? De quelle façon rendre compte du fait que ça pense? Et que quand je suis en train de parler, eh bien, j'ai, d'une certaine façon, pris certaines conclusions de cette pensée en action et eh bien, je les ai formulées. J'ai dit, il fait beau. La conversation cet après-midi est extraordinaire. J'arrive avec une conclusion, une assertion, mais bien sûr, elle dépend de mes perceptions, elle dépend aussi du fait que je suis capable de penser. Et pour moi, l'idée du musement, et évidemment, il y a un côté un peu romantique à ça, ça je pense que j'essaierai même pas de m'en défaire. Puisque ça pense, comment intégrer une réflexion sur la mémoire, l'oubli et l'agir qui intègre ce « ça pense-là » Et je me suis rendu quand même à... J'ai beaucoup travaillé sur ce rapport-là entre l'oubli comme modalité de l'agir, l'opposant à la mémoire comme modalité de l'agir. Ça m'a amené, bien sûr, à relire le mythe du labyrinthe, à opposer la figure de Thésée à la figure d'Œdipe, sachant très bien qu'en travaillant sur Œdipe et en opposant et en comparant, en fait, la figure d'Œdipe et la figure de Thésée, ce que je faisais d'une façon larvée, c'était de prendre une conception du sujet qui est extraordinairement forte au 20e siècle et encore au 21e siècle, et je l'opposais à une autre conception du sujet, fondée non pas sur la mémoire comme modalité de l'agir, ce qui est Œdipe, hein, tout ce qui s'est passé reviendra, le passé peut être enterré mais peut être déterré, nous sommes redevables de tout ce que nous faisons. Le mythe de Thésée se développe en même temps que le mythe d'Œdipe, mais lui fonctionne totalement différemment, il fonctionne avec un sujet défini d'abord et avant tout comme oubli. Il tue son père, mais ça ne vient jamais revenir le hanter. Il tue le Minotaure dans le labyrinthe. Il ne s'en souvient plus. Ça ne revient jamais le hanter. Et en même temps, ce sujet qui semble être complètement marqué par l'oubli invente, hein, la démocratie à Athènes. C'est lui qui vient non pas restaurer un ordre, mais bien créer un nouvel ordre qui est la démocratie à Athènes, l'État d'Athènes tel que nous connaissons. Alors, pour moi, penser l'oubli d'abord et avant tout comme étant une modalité positive et penser l'oubli comme une définition, non pas négative, mais positive du sujet, c'est une façon de revoir un certain nombre de présupposés que nous avons, encore un certain nombre d'hypothèses que nous avons faites sur l'agir, les modalités de l'agir, les façons d'interagir entre nous, le rapport du sujet au monde. Bon, évidemment, à partir du moment où on s'inscrit comme sujet, non pas dans un rapport au monde, mais comme sujet social, par la force des choses, tout à coup, nous avons besoin de lois, nous avons besoin, bien sûr, de modalités de relations entre nous, et que cet oubli-là, comme modalité essentielle de l'agir, devient subordonné à un ensemble d'autres préoccupations. Mais pour moi, dans la relation du sujet au monde, eh bien, au départ, il y a, en fait, ce penser-là, penser qui est la potentialité même du penser, et que penser cette potentialité-là, c'est de la penser en fonction de ce qui a été actualisé et réalisé. Mais l'actualiser et le réaliser, qui subit toutes les lois, bien sûr, nécessaires pour faire en sorte que nous soyons ici une assemblée qui se comporte normalement, eh bien, ces lois-là viennent par la suite, dans l'après-coup. Dans cet après-coup-là, en fait, n'est possible que parce qu'au départ, il y a du penser. Pour moi, une façon de représenter ce penser-là, c'est de le penser via le mouvement. Est-ce que c'est romantique? Oui.
Non, excusez-moi, est-ce que je peux...
Ça va, pas trop long, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a la parole.
Mais... essayer de répliquer un petit peu, en fait, de relancer un peu. Dans un monde où les gens ne font plus d'exercice de mémoire maintenant, parce que contrairement à ce qu'on a vu à la petite école, il y a plus, on n'apprend plus les poèmes par cœur, on n'apprend plus rien par cœur, sauf son NIP. Dans un monde où la mémoire a quitté le corps de l'être humain, pour se retrouver dans des machines et, dans ce cas-là, se stocker littéralement, est-ce qu'on n'arrivera pas à un besoin d'avoir un quelqu'un pour venir nous tuer, cette espèce de minotaure qui nous empêche justement d'oublier et qui ne permet pas l'oubli jusqu'à un certain point, qui pourrait ne pas permettre l'oubli, en tout cas?
Je ne répondrai pas parce que... Entre autres, c'est une question qui est ouverte sur l'avenir et sur la façon dont nous allons renégocier nos rapports dès l'instant où une structure mémorielle comme le réseau Internet existe, avec justement le délestage qu'il peut y avoir du côté de la mémoire. Comment tout cela va se développer dans un avenir immédiat ou un proche avenir? Ce qui, moi, m'a fasciné, et une raison pour laquelle j'ai commencé à travailler sur l'oubli, c'est que j'avais identifié un certain nombre de romans, un certain nombre de films qui traitaient de l'oubli. Et plus j'ai commencé à constituer, bon, j'avais une équipe d'étudiants qui travaillait avec moi, et on est arrivé à un corpus sur l'oubli qui est immensément grand. Et c'est étonnant. Les fictions sur les amnésiques, sur les comateux, sur ceux qui sortent du coma, sur la vie après la mort, sur les labyrinthes, sur l'oubli lui-même, sur les gens qui tout à coup ne savent plus rien, sont innombrables et de plus en plus nombreuses. Comme si tout à coup on avait besoin de penser l'oubli et que l'oubli était une véritable menace. Donc à la fois une menace, du fait peut-être même de la complexité de notre monde, menace très souvent exprimée par le biais du labyrinthe. De plus en plus de gens disent, nous vivons dans un labyrinthe, Internet est un grand labyrinthe, on voit le labyrinthe utilisé vraiment d'une façon très importante, et pour moi, c'est une manifestation de la nécessité de penser l'oubli, parce qu'elle nous menace, la figure de l'oubli nous menace, il nous menace, et nous avons essayé de trouver des façons de nous représenter cette menace-là. Et je pense que de penser l'oubli, de mettre en scène l'amnésie, de mettre en scène le coma, la vie après la mort, ce sont toutes des façons de penser l'oubli et donc de représenter cette chose qui, bien sûr, se donne comme étant la non-conscience, le non-savoir, la non-mémoire. Merci.
Bon, alors le hasard veut que ce soit Louise Dupré qui va rendre le droit à la dernière intervention. Ce n'est pas par parti pris, simplement. Il est 80.
Ah, oui, il y avait Cédric
là. Ah oui, alors je m'excuse, non, je corrige. Claude Baird avait aussi demandé la parole. Non, mais Louise, tu peux le faire. Tu peux le faire avant. Moi qui avais le temps. Alors, Claude Baird tient à avoir le dernier mot.
Ah non, c'est vicieux.
Je vais être très, très brève. Vos communications m'ont rappelé ce qu'une amie de Valence m'a raconté. Semble-t-il qu'à Valence, au mois de mars, il y a une fête où les gens sortent sur le trottoir ce dont ils ne veulent plus, leurs vieilles choses, leurs vieux meubles, pour laisser de la place dans leur vie à quelque chose de nouveau. Alors, ce que vous avez dit me fait beaucoup penser à ça.
Je crois qu'on appelle ça des vendeuses d'oubli.
Ah oui. Ah, mais c'est magnifique.
C'est beau, hein? J'avais oublié ça, Louise.
Es-tu des acheteuses?
Je crois qu'on se rejoignait tous au même lieu. Parce que j'avais envie de dire, l'oubli, c'est l'avenir de la mémoire. C'est-à-dire que, mais oui, l'oubli, c'est ce qui fait la... Mais oui, l'oubli, c'est l'avenir de la mémoire. Parce qu'elle-même s'effrite d'un oubli successif. Mais aussi, c'est celui qui fait de la place pour d'autres mémoires. Parce que du coup, il y avait une seule chose, et je terminerai là-dessus pour pas... C'est que dans cette histoire d'Œdipe et de Thésée, qui me paraît très, très riche aussi, il y a quand même deux choses. C'est que Thésée fonde une démocratie. C'est-à-dire qu'il est dans le lieu. Il fonde une démocratie, donc il organise l'espace. Le politique, c'est que s'y organise l'espace. Et très étonnamment, dans le langage courant, l'oubli, c'est effectivement ce qui fait de la place, ce qui dégage de l'espace. Et je ne l'opposerai pas à Œdipe. Parce qu'effectivement, Thésée tue son père et il l'oublie. Et c'est pour ça qu'il peut fonder une cité. En revanche, puisque toutes les cités sont fondées sur le meurtre, soit de Rémus et Romulus, soit sur le meurtre du père, etc. Hein, toute cette thématique de René Girard. En revanche, Œdipe, qui est d'ailleurs le boiteux, Œdipios, bon, ce n'est pas quelqu'un qui fonde une cité, c'est quelqu'un qui fonde une langue. Parce qu'une fois qu'il a transgressé, il devient, en Grèce même, le prototype, la figure même de la Hède. Hein, la Hède, celui qui raconte. Et ça me fait tout simplement penser à Hannah Arendt, qui dit d'un côté, il y a la fondation de la cité et la vie de la cité qui est ancrée dans l'oubli, et il y a le poète, au sens large, hein, l'écrivain, hein, qui quelque part est celui qui tisse la mémoire de la cité. Il n'en est pas le gardien, c'est le politique qui s'en fait le gardien. Et c'est bien pour ça qu'il a bien besoin, le gardien, d'avoir des mouches iconoclastes, hein, qui viennent le sortir. Bon, en revanche, l'écrivain n'en est pas le gardien, mais il en est celui qui en tisse le langage. Il faut bien que la cité se parle. Et Œdipe fait parler la cité. En revanche, Thésée la fonde. Enfin, voilà, c'est un peu ça.
Merci. Bon, alors écoutez... Alors, non, en entendant cette expression, l'avenir de la mémoire, je rappellerai qu'un des grands, peut-être le plus grand sociologue québécois, mais qui était aussi un poète, a écrit un beau livre qui s'appelle justement L'avenir de la mémoire, Fernand Dumont. Alors, écoutez, je pense qu'on a beaucoup de matière à réflexion et on va poursuivre demain. Alors, je vous rappelle qu'à 17, je ne sais pas si Louise a quelque chose à ajouter, mais en tout cas à 17h30, non, ça va. Donc, à 17h30, on se retrouve à la Maison de la Culture, mais je crois qu'il y a des rendez-vous organisés avant, là, dans le hall, pour ceux et celles qui veulent y aller à pied, parce que c'est environ à 16h45, donc dans le hall en bas, dans le hall d'entrée. Alors, merci pour tous les participants aujourd'hui, y compris pour tous ceux qui sont intervenus, et à demain matin.